Chaque mardi, retrouvez en exclusivité sur NVS Radio un acteur économique de notre territoire. Les rendez-vous de l'économie du territoire, c'est tous les mardis à 19h sur NVS Radio.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les rendez-vous de l'économie du territoire. Nous avons rendez-vous aujourd'hui avec Flavien Patureau, bonjour.
Bonjour.
Flavien, vous dirigez la société Palladium à Nevers, qui est spécialisée dans les pompes à chaleur.
Oui.
On va parler chauffage aujourd'hui. Ça tombe bien, il ne fait pas très chaud en ce moment. Alors je vais vous demander si vous voulez bien de présenter votre entreprise. Et puis j'aimerais aussi que vous nous expliquiez ou que vous expliquiez à nos auditeurs ce qu'est précisément une pompe à chaleur, à quoi ça sert et qu'est-ce que ça ne fait pas. Parce qu'on en parle beaucoup, beaucoup dans la presse, mais je crois qu'on s'éloigne un peu de ce que c'est.
Effectivement. Souvent, effectivement. Donc la société Palladium, je l'ai créée en 2016, à l'origine pour effectuer le SAV de d'autres sociétés.
D'accord. De la réparation au départ.
Plutôt de la réparation. Et suite à quoi, forcément, on en est venu à faire de la pause au bout de 2 ans environ. Donc ça fait maintenant 8 ans.
D'accord, ah ben ça passe vite. Hein. Vous êtes combien en fait dans l'entreprise ?
Alors aujourd'hui, on est 5. Donc j'ai une équipe de pause, une personne au bureau, moi qui m'occupe de faire le service après-vente et le dépannage.
Oui.
Et puis un apprenti qu'on a pris il y a 1 an et demi maintenant.
Il va bien cet apprenti ?
Une perle.
Une perle ? Vous le gardez, du coup ?
Oui, c'est prévu.
C'est prévu, mais ça sert à ça, l'apprentissage. Donc, en gros, 6 personnes. Vous rayonnez sur toute la Nièvre ou uniquement sur Nevers et agglomération ?
Alors, en gros, 60 km autour de Nevers.
Oui.
Donc, frontière de Bourges, Cône, Château-Chinon, Moulins.
D'accord. Voilà. Ok, donc ça permet aux clients de savoir où ils peuvent, jusqu'où vous pouvez aller. Et alors, vos clients, ce sont des particuliers, des professionnels, comment ça se répartit ?
Alors, majorité de particuliers, quelques petits professionnels du petit tertiaire,
oui.
Et de l'administration également.
Petit tertiaire, justement.
Bon, tout ce qui ne nécessite pas des grosses structures.
D'accord.
Où on n'a pas, de toute façon, le personnel.
Oui.
Et puis, ce n'est pas notre souhait non plus.
Ce n'est pas votre souhait. Et puis, donc, des administrations également. Au niveau de vos activités, donc, vous nous avez expliqué installation, entretien, dépannage.
Oui.
Vous faites le dépannage du matériel que vous installez ou on peut vous solliciter pour du dépannage autre ?
Un dépannage de tout ce qui est pompe à chaleur.
Oui.
Donc, peu importe qui a installé, on intervient.
Et il y a des problèmes de garantie, du coup, pour quand on intervient sur du matériel installé par une autre entreprise, par exemple. Je pose des questions bêtes aujourd'hui.
Il n'y a pas de questions bêtes. effectivement, alors, quand le matériel est garanti, généralement, il l'est par le fabricant.
Oui.
Donc, à partir de là, on arrive à avoir les garanties des pièces.
D'accord.
Reste la main-d'œuvre. Ça reste dû. Par contre, effectivement, si une société a vendu une garantie qui n'est pas au fabricant, on ne pourra rien faire.
Ah, c'est ça, en fait. Ok. Ça arrive souvent que vous soyez sollicité sur du dépannage de ce type, où les sociétés ont vendu une garantie, mais pour une raison X ou Y, n'interviennent pas ?
Très régulièrement, oui. Okay. C'est la majorité de nos dépannages, d'ailleurs.
Ah bon ?
Oui.
Comment vous expliquez ça ?
Beaucoup font des installations et ne les maintiennent pas. D'autres sociétés ont fermé dans le temps.
D'accord.
Parce que des pompes à chaleur, on en entretient, elles ont 20 ans. Hein, donc, en 20 ans, plein de sociétés ont pu fermer.
Okay.
Ou des sociétés sont venues poser et sont trop loin pour venir dépanner.
D'où l'intérêt de faire intervenir des gens locaux aussi.
Exactement, oui.
Ouais. Non, mais c'est intéressant parce que ça. C'est aussi un point à réfléchir quand on envisage une installation. Finalement, il faut regarder tous ces aspects-là.
Ah bah faire intervenir des gens qui ont des équipes en local, oui, ça permet de pouvoir et les maintenir et les dépanner en cas de problème.
D'accord. Alors, comment ça se passe chez vous, justement, quand vous êtes sollicité par un client qui a un besoin, qui vous appelle ? Vous commencez par quoi ?
Alors, c'est, ça dépend si c'est du SAV ou une
demande d'installation. On va dire installation, parce que SAV, je me doute de comment se déroule l'appel. Bonjour, s'il vous plaît, ça ne fonctionne plus, est-ce que vous pourriez venir pour hier?
C'est à peu près ça.
C'est à peu près ça, j'ai bien fait. D'accord. Non, je parle d'installation, en fait.
Alors, en installation, déjà, on prend quelques renseignements clients. Mmh. On prend un rendez-vous avec lui pour venir faire un bilan du besoin, définir si, déjà, le client... ce qu'il souhaite correspond aux besoins de l'habitation et si l'habitation est adaptée au produit et quel produit va être adapté à l'habitation.
Voilà, ça fait beaucoup d'adapter ça. Alors, on va essayer de reprendre par étapes. Le besoin tel qu'il est exprimé par le client.
Oui.
Le besoin de l'habitation, ce n'est pas forcément le même que le client ? Que celui du client, pardon ?
Pas toujours, non. Non, les clients, comme... On a abordé tout à l'heure le sujet. On croit qu'une pompe à chaleur peut être miraculeuse,
oui.
Ce qui n'est pas forcément le cas à chaque fois.
Donc, il faut vraiment une étude qui permette de vérifier que c'est bien la solution de chauffage qui est adaptée au logement.
Exactement, oui. Tout est lié. En fait, là, on ne peut pas dire par téléphone, il vous faut telle pompe à chaleur.
Ah, on ne peut pas. Je suis sûre qu'il y en a qui le font. Donc, une étude pour vérifier la faisabilité. Le fait que la solution pompe à chaleur soit vraiment la solution qui soit appropriée au logement et aux besoins du client.
Et quel type de pompe à chaleur ? Parce que bien évidemment, il y en a plusieurs.
Voilà. Alors, justement, je vous l'ai dit en début d'émission, mais moi j'aimerais bien que vous nous réexpliquiez ce qu'est une pompe à chaleur, comment ça fonctionne et quels sont les usages pour lesquels c'est vraiment très adapté, quels sont ceux sur lesquels il faut faire attention, quoi.
Alors, les pompes à chaleur, déjà, il y en a tout un panel.
Oui.
Les basiques qu'on connaît beaucoup sont les pompes à chaleur RO, donc qui captent l'énergie dans l'air pour la restituer dans l'eau, donc dans des radiateurs et planchers chauffants.
D'accord.
On va avoir également, dans les plus connus, la pompe à chaleur RR, ou climatisation réversible, qui vont capter l'énergie dans l'air et la restituer dans l'air.
Mmh.
Mais on a aussi d'autres types de pompes à chaleur, type géothermique, OO, qui vont capter l'énergie dans l'eau et la restituer dans l'eau.
Mmh.
Voilà, ça, après, c'est... Voilà,
D'accord, donc déjà différents types de pompes à chaleur. Avant d'envisager l'installation d'une pompe à chaleur, quels sont les prérequis sur le bâtiment ?
La priorité, de toute façon, de toute habitation est qu'elle soit bien isolée. Avant de dire on va la chauffer correctement, il faut absolument qu'elle soit bien isolée. Ou isolée comme on le peut.
Oui, parce que parfois on ne peut pas faire non plus ce qu'on voudrait.
Et du coup, une fois que cette partie-là est faite, on peut se poser la question de chauffer l'habitation.
D'accord. Vous accompagnez les clients justement sur cette réflexion quand vous vous rendez compte que peut-être on est parti un peu trop vite sur la solution chauffage avant de penser à l'isolation.
Par devoir de conseil, déjà, on est obligé d'expliquer aux clients que la première amélioration va être d'isoler,
oui.
De changer des menuiseries ou une menuiserie, dans certains cas.
Oui, c'est pas toujours.
Isoler
tout.
Une partie ou une autre. Et ensuite, on peut réfléchir effectivement.
En termes de chauffage.
Le chauffage et climatisation.
Ok. Vous assistez les clients sur les dossiers d'aide ? Parce que ça aussi, c'est toujours le point de frein pour beaucoup de clients. C'est la partie, il y a des dossiers qui sont compliqués à monter, on n'est pas sûr de recevoir les aides.
Alors oui, effectivement, c'est relativement compliqué. De plus en plus, d'ailleurs.
Et elle dit que...
nous, on les assiste, on ne veut surtout pas le faire à leur place, parce qu'on veut que les clients soient impliqués dans les démarches.
Alors, c'est intéressant ce que vous nous dites, parce que beaucoup de sociétés proposent de vraiment tout faire pour le client.
Oui. Alors, pour avoir eu le cas, problème. Ouais.
Alors, justement, expliquez-nous à quel moment ça peut être un problème, qu'on ait aussi différents points de vue.
À partir du moment où une société le fait entièrement pour le client, le client, on va dire, est pris par la société, c'est-à-dire que tous les codes appartiennent à la société, tous les codes d'accès.
Mm-hmm.
Et donc, le client n'a plus la main sur ses dossiers.
D'accord, ça peut être un risque, effectivement.
Ça peut être un risque dans certains cas. S'il a d'autres améliorations à faire pour lesquelles il peut bénéficier d'aide, la société peut retenir les codes un certain temps et bloquer un peu le client dans des démarches futures.
D'accord.
Donc nous, par souci de transparence, on tient absolument à assister les clients qui viennent au bureau, qu'on aille chez eux pour les aider. S'il y a besoin, il n'y a pas de souci. Mais on veut absolument qu'ils soient impliqués dans la démarche.
D'accord, ok. Ça nous explique le pourquoi du comment des choses. Merci en tout cas pour cette présentation. Je vous propose, Flavien Patureau, pardon, que nous marquions une première pause musicale. Je vais en avoir besoin, visiblement, je n'arrive plus à parler. Qu'aimeriez-vous nous faire écouter sur cette pause?
Alors, Song of Silence de Simon & Garfunkel.
Allez, c'est parti, on se retrouve dans un instant.
Les rendez-vous de l'écho du territoire, retour dans un instant.
Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light. It split the night, touch the sound of silence, and in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices share. No one dared disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know, silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you, take my arms that I might reach you, but my words, like silent raindrops, fell and echoed the wells of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning, the words that it was forming, and the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls, whispered the sounds of silence.
Les rendez-vous de l'écho du territoire, tout de suite, la suite.
Nous sommes de retour dans les rendez-vous de l'économie du territoire consacré à Flavien Patureau, qui dirige la société Palladium à Nevers, spécialiste des pompes à chaleur. Nous allons aborder dans cette deuxième partie, Flavien, plus l'actualité économique en lien avec votre actualité. Et lorsqu'on préparait l'émission tout à l'heure, vous me disiez que la période Covid avait changé beaucoup, beaucoup de choses pour votre entreprise. Est-ce que vous pourriez nous dire comment ça s'est passé pour vous ?
Alors déjà, tout d'abord, ça a été compliqué de devoir fermer.
Oui, vous étiez fermé, hein.
Alors, on a limité la caisse, on va dire. On est resté en partie ouvert, ne serait-ce que pour gérer le dépannage.
Le dépannage, oui, de première nécessité. Donc
voilà,
ça,
les gens qui ont besoin d'eau chaude ou de chauffage, ça oui. reste des priorités.
c'est mieux.
Et puis, effectivement, après, ça a été compliqué à gérer dans le sens où beaucoup d'augmentation en termes de tarifs matériels et surtout un changement de comportement au niveau des clients.
Oui. Alors c'est ça justement, parce que bon, j'irai augmentation des tarifs, on va y venir tout à l'heure, et ça, ça a été commun à beaucoup de secteurs, hein, en période Covid et post-Covid. Mais c'est le changement de comportement des clients. Comment ça s'est passé en fait? Qu'est-ce qui a changé dans leur façon de se comporter vis-à-vis de d'entreprises comme la vôtre?
Bah, avant, on parle quand même de chauffage, donc c'est des montants généralement qui sont quand même conséquents.
Oui.
Donc les gens avaient tendance à prévoir, à anticiper beaucoup de choses. Mmh. Aujourd'hui, ça a plus basculé dans le besoin immédiat. Donc les gens ont plus tendance à vouloir pour demain quelque chose qu'ils prévoyaient avant un an à l'avance. Quoi.
Alors, ça veut dire qu'on vous demande d'intervenir très rapidement? Mais aussi, est-ce que ça n'a pas des conséquences dans la façon de préparer le projet, notamment dans la façon de le financer? Parce qu'on parle quand même de travaux qui sont toujours relativement conséquents.
Alors, de la manière de le financer, justement, les gens ont besoin, donc on a un besoin immédiat, mais dépensent beaucoup plus l'argent qu'ils ont tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a moins d'argent de côté.
Oui.
Mais ce qui est côté... Ce qui est de côté, ils ont tendance à le dépenser.
D'accord.
Ils ont moins de...
Ce qui n'est pas mauvais pour l'économie, hein, ceci dit.
Ce qui n'est pas mauvais pour l'économie immédiate.
Oui.
À long terme, ça sera à voir.
Ah, c'est ça en fait. Donc du coup, pour vous, vous avez intérêt à être beaucoup plus rapide sur les délais?
Alors, oui et non, parce que nous, on a toujours essayé d'être rapide dans nos délais. Après, effectivement, c'est... Dans la manière de le gérer, que c'est différent.
Oui, ou concrètement, ça, c'est
concrètement, bien. Quand on fait un devis et que le client le signe le lendemain, il s'attend bien évidemment à être posé très, très, très rapidement.
Le surlendemain.
Le surlendemain.
Et vous n'êtes pas posé en mesure de faire ça ?
Ce qui n'est jamais possible.
Je ne comprends pas. Parce que, mine de rien, on parle de matériel qui nécessite un certain temps en termes de livraison, de fabrication, ou vous avez tout le temps du stock qui permet de répondre?
Alors, dans les on a toujours un peu de matériel en stock.
D'accord.
Alors après, on n'a pas tout, hein, ce n'est pas possible. Mais on a toujours un peu de matériel en stock qui permet de répondre aux réelles urgences.
Oui, c'est ça. Matériel endommagé qui ne fonctionne plus et qu'il faut remplacer.
Ou du matériel... où on peut dépanner les gens, c'est-à-dire un client qui n'a plus d'eau chaude, on a des chauffe-eau.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Mais normalement, vous n'avez pas vocation à avoir un stock pour pouvoir répondre à toute nouvelle demande, si?
Ah non, 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 c'est pas notre rôle. Normalement, c'est les distributeurs qui font
ouais,
ça.
C'est ça.
Donc, ouais, c'est différent à gérer. Les délais ont augmenté, bien évidemment. Hein. Là où avant, les fabricants livraient en 72 heures, aujourd'hui, on est plus à 15 jours, 3 semaines.
Oui, c'est ce qui me semblait. Donc, on est sur une demande d'un côté des clients qui est de réagir beaucoup plus vite.
Exactement.
Alors même que les fabricants ont des... Enfin, oui, les distributeurs ont quand même des délais un petit peu plus...
Qui sont rallongés.
Voilà, on est d'accord. Et alors, comment vous gérez ça?
On gère.
On gère.
Comme on peut, on jongle avec le matériel, avec les commandes.
Mais les clients sont capables de l'entendre, ça?
Oui, oui.
Oui, quand même.
La grande majorité, oui.
Ils sont déçus du délai, déçus, mais ils l'entendent.
Non, parce qu'ils ne sont pas bêtes non plus, ils
ouais,
le comprennent.
Ils comprennent que
c'est partout pareil.
Oui, 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 ok. Et alors, si on parle maintenant de l'impact, justement, alors de l'inflation, mais aussi et de ces coûts de matériaux qui ont augmenté de façon vertigineuse.
Ah oui, complètement.
Oui. On est sur quel pourcentage d'augmentation?
Sur certains matériaux, on a pu monter à 70% d'augmentation.
Oui, quand même.
Donc on peut
et,
pas...
Et ça s'est restabilisé depuis ou c'est toujours resté au même niveau qu'en sortie de crise Covid?
Non, depuis le début d'année, là, on sent vraiment une stabilisation, voire... Je dis bien voir une tendance à la baisse.
Ça a l'air d'être quand même très très léger. Hein
par rapport à l'augmentation, très léger.
D'accord. Qu'est-ce qui explique ces augmentations? Elles sont vraiment fondées ou ça a été une opportunité de marché pour les fournisseurs?
Je pense qu'il y a un cumul de tout. Il y a eu tellement de manque de fabrication pendant les deux ans Covid,
oui.
Où la demande ne s'est pas arrêtée, elle.
Oui.
Donc... plus de matériel
marché.
Qui est fabriqué et en même temps le matériel qui est vendu, il n'y a plus de stock, il faut refabriquer.
Mm-hmm.
Et pour ça, à un moment donné, quand on vend du stock, on le vend moins cher que quand on vend ce qu'on fabrique.
Forcément, le stock, ça a un coût. Donc, et puis après, c'est une question d'offre et de demande aussi hein, qui fait le prix. Ça, on a tendance à l'oublier parfois, mais tous les prix ne sont pas réglementés. Et aujourd'hui, donc on est sur une stabilisation, mais qui reste quand même haute.
Oui, complètement.
Et finalement, très très légère baisse. Si on parle maintenant des aides, alors chaque année, on a l'incertitude sur maintien des aides, pas maintien des aides. Vous me disiez quelque chose d'intéressant, c'est que finalement, les aides ont tendance à tuer le produit.
Exactement.
Oui. C'est pas courant comme façon de voir les choses, j'aimerais bien que vous m'expliquiez ça.
Aujourd'hui, pour beaucoup, les gens ou les vendeurs hein, ont tendance à vouloir les aides avant de vouloir le produit, et les vendeurs à vendre des aides avant de vendre un produit. Ce qui, pour moi, est pas évident à faire, puisque on est là pour chauffer une maison et pas pour faire bénéficier des aides aux clients. Si on revient quelques années en arrière, on avait les pompes à chaleur RR qui bénéficiaient de 50% de crédit d'impôt à l'époque.
Ouais, ce qu'on appelle les clims, en fait. Hein.
Exactement. Ouais. Était fortement aidé. Il s'en est vendu des quantités faramineuses à des prix exorbitants. Et aujourd'hui, on a descendu de 40% les tarifs et il s'en vend toujours. Et il n'y a plus d'aide. Mais
c'est
par contre, on vend le produit.
Que,
on
voilà,
vend plus
c'est
le...
intéressant parce qu'effectivement, alors si je vous ai demandé de redéfinir dans la première partie de l'émission, ce qui ne pompe pas chaleur, comment ça fonctionne, c'est parce qu'on en entend tellement parler, mais plus au niveau des aides de l'État, que finalement on finit par oublier qu'il y a différents types de solutions dans les pompes à chaleur, et puis savoir ce que c'est. Et là, vous nous expliquez qu'on est dans un contexte où on a vu un coût des matériaux qui a flambé de 70% en post-Covid, mais que si on regarde dans les années précédentes et sur notamment les climatisations qui ont été fortement aidées pendant un temps, qui ne le sont plus aujourd'hui, on a quand même une baisse des tarifs de 40%. Et ça n'a pas, le fait que les aides disparaissent n'a pas amoindri le marché. Les gens qui ont besoin font l'installation.
Alors, ça l'a amoindri pendant, on va dire, 5 à 6 ans.
Oui.
Et après, c'est reparti parce que le besoin est là.
Oui.
L'efficacité est là aussi.
D'accord.
Donc, à partir de là, il n'y a pas besoin des aides pour qu'un produit soit efficace.
Alors, les aides ont été mises en place par les différents gouvernements, puisqu'elles sont renouvelées assez régulièrement. Alors, elles changent, ça devient de plus en plus compliqué, plus personne n'y comprend grand-chose, mais ce n'est pas très grave. Mais l'objectif de ces aides, c'est de donner un coup de pouce aux ménages qui ont besoin, justement, d'améliorer l'efficacité énergétique de leur logement et qui n'ont pas forcément les moyens de le faire sur un prix plein. Mais c'est intéressant parce que ce que vous nous dites, c'est que ça crée un effet d'aubaine.
Mais complètement.
Qui fait que, puisque les gens vont avoir des aides, finalement, les prix vont un peu flamber quand même.
Ah bah oui, et puis les fabricants en premier vendent les produits plus chers parce qu'ils savent que de toute façon, ça va se vendre vu qu'il y aura les aides.
Donc en fait, ça veut dire qu'au niveau du consommateur final,
oui.
c'est lui qui se fait avoir finalement.
Ah bah complètement. Puisqu'il faut savoir qu'en plus, les aides sont données par l'État et qui finance l'État.
C'est toujours le contribuable dans ses impôts, on est bien d'accord. Non, mais c'est intéressant cette approche des aides parce que, ok, je comprends bien aussi le fait que vous souhaitiez assister vos clients mais qu'ils restent indépendants, c'est que vous avez aussi cette vision des aides qui reste quelque chose d'un petit peu artificiel sur le marché. Et finalement, quand on entend... Les ménages, mais aussi certains professionnels qui s'inquiètent de la possible diminution des aides à la rénovation énergétique, vous vous dites, ben, oui, ça va avoir un effet de latence, mais finalement, ça va peut-être faire baisser les prix et les gens, ils feront quand même leur projet.
Bah, complètement, oui. Les prix vont obligatoirement baisser à partir du moment où il y aura moins de demande pendant quelques années.
Oui.
Et après, ça va se stabiliser, la demande reviendra de toute façon.
Ok. C'est intéressant, cette façon de voir les choses. Je ne suis pas sûre que tous les auditeurs soient super contents d'entendre ça, parce que ça veut dire qu'il y a un moment donné, y compris au niveau des aides de l'État, qui sont dans un objectif de transition écologique, hein, bien évidemment, et d'améliorer aussi la performance des logements. Mine de rien, on voit bien qu'il y a toujours des biais qui sont pris et qui font que ça rend les choses un petit peu artificielles, finalement, sur un marché.
Oui, parce que dans la tête de tout le monde, de toute façon, le levier financier reste aujourd'hui la priorité. Donc,
D'accord. Alors, on va se remettre un peu pendant une pause musicale, si vous voulez bien. Que voulez-vous nous faire écouter cette fois-ci ?
On va changer un peu de registre. System of a Down, Toxicity.
Eh bien, on se retrouve juste après. Merci.
Les rendez-vous de l'écho du territoire, retour dans un instant.
Dans les rendez-vous de l'économie du territoire, consacré aujourd'hui à Flavien Patureau. Vous allez bien depuis tout à l'heure? Vous tenez
très
le choc
bien, toujours.
Vous dirigez la société Palladium. On a parlé de pompe à chaleur. On a parlé aussi d'une autre façon de voir et de percevoir les aides de l'État sur la rénovation énergétique. On va maintenant se consacrer à vous, Flavien. Alors, de façon assez classique, j'aimerais bien que vous nous disiez à quoi rêvait le petit Flavien. Quand il était petit, il voulait faire quel métier, lui ?
Il rêvait de sport mécanique.
Ouais, oh bah, il y a de la mécanique hein, dans les pompes à chaleur, c'est pas tout
ouais,
à fait la même.
Oui, bah, ça pollue un peu moins, du coup.
Ouais. Sport mécanique, qu'est-ce que vous vouliez faire exactement ?
Alors, beaucoup la moto.
D'accord.
Deux roues, beaucoup. Cross, enduro.
Oui.
Et puis, bah, forcément, hein, tout n'est pas possible.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Bon, besoin financier pour... avancer dans ce domaine est relativement conséquent.
Oui.
Et puis, bah, ça, voilà.
Vous êtes originaire de la Nièvre,
oui, 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 complètement.
Et du coup, à l'école, ça se passait comment ?
Alors, à l'école, c'était compliqué. Jusqu'au collège, tout allait à peu près bien. Et...
Ouais, c'est souvent là que ça bascule. Je ne comprends pas pourquoi.
Et non, non, je ne m'intégrais pas au système scolaire.
Ah, c'est-à-dire ?
Non, bah après, c'était en été maladif.
Ah ouais, carrément.
Ouais, ouais, vraiment, je fais partie de ces personnes où, qui n'étaient pas faites pour aller à l'école.
D'accord. Donc, école buissonnière ou vous avez trouvé d'autres solutions ?
Et puis, après, j'ai commencé à travailler dès que j'ai eu mes 18 ans.
Oui.
Et puis, bah...
Formé sur le tas, du coup.
Formé sur le tas.
Ok. Donc, pas de sport mécanique ?
En loisir.
En loisir, quand même. Et comment vous en êtes arrivé à travailler dans ce domaine des énergies renouvelables et à monter votre entreprise ? Parce que si on regarde sur le papier ce que vous venez de nous dire sur votre parcours scolaire, sur votre enfance, c'était pas forcément gagné.
Non, c'est un pur hasard. Alors, j'ai quand même des bases. J'ai passé un bac électrotech.
Ah,
donc, j'ai quand même des bases à l'origine.
Donc, il y a quand même eu un peu d'études, même si.
Oui.
Il y a eu des études. Donc, quand tu as un bac électrotech.
Et donc, par la suite, je travaillais en intérim.
Oui.
Et puis, un jour, on m'a appelé pour savoir si ça m'intéressait de poser des climatisations.
D'accord.
Bon, je connaissais pas du tout.
Ah oui.
J'ai dit pourquoi pas.
Mm-hmm.
Et puis c'était parti.
Donc en tant que salarié, je suppose au départ.
En tant que salarié, effectivement, dans une petite société, on va dire familiale,
oui.
Qui a très très vite et de manière conséquente évolué. On
oui.
a été à plus de 600 personnes sur la France.
Ça ne devient plus tout à fait la petite entreprise familiale.
On n'est plus dans la société familiale.
Okay.
Donc j'ai évolué avec cette société.
D'accord.
Jusqu'à ce qu'elle soit vendue et qu'elle finisse par fermer.
Oui, il y a des ventes comme ça qui ne se passent pas aussi bien qu'on le voudrait.
Et puis ça, par contre, ça a été très très formateur.
Oui. Vous étiez salarié quand elle a fermé ?
Oui, oui.
Vous avez été licencié ?
Licencié, oui, économiquement.
D'accord. Et là, ça se passe comment ?
J'ai eu la chance que la société suive ses clients. Elle n'a pas été fermée brutalement, on va dire.
Oui.
Ce qui nous a, pour une grosse partie, aidé à remettre le pied à l'étrier.
Oui.
Moi particulièrement, puisque j'ai géré pendant quelques années le service après-vente de cette société par sous-traitance.
C'est comme ça que vous
êtes
installé,
en fait. C'est comme ça que j'ai monté la société à
l'origine. D'accord. Ok, donc c'est pour ça que vous nous disiez en début d'émission, j'ai commencé par faire de la réparation, de la maintenance, mm-hmm. avant de me lancer sur l'installation.
Sur l'installation. Oui.
D'accord. Bon, bah écoutez, parcours pas si incohérent que ça, finalement.
Non, au final.
Hein, vous voyez ? Et alors l'avenir, vous le voyez comment, vous ?
Dans la continuité, après, il n'y a pas de raison.
Il n'y a pas de raison. Développer l'entreprise, développer, avoir plus de salariés, comment vous imaginez les choses ?
À part embaucher effectivement l'apprenti qui est le projet
l'apprenti
qui arrive.
Qui a pour, donc il n'y a pas intérêt à rater son examen
au mois de juin. Il a la pression.
Il a un peu la pression et puis en plus il y a plein d'auditeurs qui vont lui mettre la pression. Alors, tes résultats d'examen ?
Mais non, nous on veut rester, moi je veux que la société reste à taille humaine.
Oui.
Justement pas faire ce qui s'est passé avec l'autre société où tout s'est perdu en route, l'humain, le client.
Ça vous a marqué ça quand même.
Ah oui, c'est...
Quand vous disiez que c'était formateur, c'est formateur à la fois dans ce qu'il faut faire
et dans ce qu'il ne faut pas faire.
Il ne faut pas faire.
Oui, oui.
C'est le fait d'avoir voulu trop grossir qui a condamné cette société finalement.
Oui, en partie, ouais.
En partie.
Vraiment, ouais.
Ce qui est arrivé à un moment donné où il fallait de toute façon la vendre.
Alors, il fallait la vendre. Enfin, après, faut stabiliser. Enfin, il y a plein de choses dans une évolution de société.
Bien sûr.
Mais c'est oui. Après. C'est quelque chose, c'est une expérience qui est passée, qui est là, que je ne regrette pas du tout, qui a été
ouais, formatrice, géniale. Vous l'avez dit, mais vous n'avez pas envie de vous lancer dans ce
genre de choses. Mais je ne veux pas reproduire effectivement okay. Le schéma.
Et à titre personnel, il y a des rêves encore que vous n'avez pas pu mener à bien, que vous aimeriez pouvoir faire?
Oui, voyager un peu plus, ouais.
Ah oui. En moto ou...
Non, plus en touriste.
Touriste. Ok. Et ça, vous l'envisagez comment? Vous attendez la retraite ou
non,
plutôt avant?
Non. Avant, peut-être prendre un peu plus de congés dans l'avenir.
Un peu plus de congés. Ah, ça, c'est toujours le problème de beaucoup de chefs d'entreprise. C'est à quel moment on s'arrête, on prend un peu de temps pour soi, c'est ça?
C'est ça, oui. C'est
toujours
compliqué.
C'est quelque chose de compliqué pour vous?
Oui, bah, surtout quand on... Enfin, moi, j'essaye de m'investir au maximum. Donc, c'est... Partir en vacances, on sait que quand on va revenir, non seulement le temps qu'on est parti, il y a des clients qui... n'auront pas eu gain de cause et en même temps, il faut rattraper le retard.
Oui, surtout que vous êtes quand même beaucoup sur la maintenance malgré tout. Vous disiez, c'est quand même vous principalement qui intervenez.
Le dépannage, oui, complètement. Ouais.
Ok. Et donc, comment vous allez l'organiser, ça, pour pouvoir vous permettre de partir un peu?
Eh bien, je vais remettre un coup de pression à l'apprenti. C'est que...
le pauvre.
C'est que lui, son diplôme, c'est justement la maintenance en énergie renouvelable. Ouais. Et le but, c'est qu'effectivement, il fasse du dépannage.
Et qu'il puisse vous suppléer convenablement?
Complètement.
D'accord. Donc, alors, si on regarde bien, juin, il faut qu'il ait son diplôme. Ensuite, vous partez en vacances.
C'est à peu près ça.
C'est non. À peu près ça.
Non, j'exagère. Mais...
Bon, merci en tout cas Flavien de votre bonne humeur et puis de nous avoir consacré ce rendez-vous.
Merci à vous.
Merci, donc vous dirigez Palladium, donc société spécialisée dans les pompes à chaleur, basée à Nevers. Et merci à nos auditeurs de leur fidélité. Je vous dis à très bientôt.
Au revoir.
Chaque mardi, retrouvez en exclusivité sur NVS Radio un acteur économique de notre territoire. Les rendez-vous de l'économie du territoire, c'est tous les mardis à 19h sur NVS Radio.